J'avais 19 ans, j'arrive en France pour apprendre le français, pas pour aller rencontrer ma femme,
mais si c'est venu par la suite.
J'arrive et à l'internat des garçons, à côté du lit, il y avait une Bible. Une Bible que j'ai encore vue ici en Belgique, quelques fois, petite Bible rouge,
avec sur la
partie inférieure ici de devant
était écrit Ésaïe 55.
On ouvrait la Bible, la première page
avait le chapitre en entier. Je ne savais pas quel rôle ce chapitre allait jouer dans ma vie.
Je ne savais pas encore. Le fait est que de toute façon, à partir de ce moment-là, c'est devenu un de mes chapitres préférés de la Bible.
Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau.
Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez.
Venez, achetez du vin et du lait sans argent,
sans rien payer.
Quand je suis arrivé en France, mes parents payaient
l'internat, il y avait la cafette,
le cours, le sport, tout allait bien.
Un an après, et je vous ai déjà raconté un peu,
pour des différentes situations de la vie, je me suis retrouvé à la rue avec une valise, toujours au même endroit, mais plus d'internat, plus de cafettes. Et lire ce verset, c'était quand même drôle. J'aurais bien voulu aller acheter des choses sans payer, mais c'était pas possible. Essayez, vous allez voir.
Cela sans compter ce que l'apôtre Paul dit dans la deuxième épître aux Thessaloniciens au chapitre 3 verset 10. Qui ne travaille pas, qui ne mange pas.
Donc vous comprenez, à une époque il fallait que je travaille chaque jour pour manger chaque jour. Ce verset-là, Ésaïe 55 verset 1 et 2, ça me fait une belle jambe. Verset 2, pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents.
Le message d'Ésaïe, c'est un message à contre-courant, il faut le dire.
Et pour notre société, c'est un message subversif, à le dire aux puissants de cette terre, on a droit avoir accès gratuitement aux bonnes choses de la vie. C'est un message utopique, c'est un message qui pourrait paraître aussi incohérent. Acheter sans argent. Et pourtant, ce n'est pas du crédit dont la Bible parle, parce que ce que Dieu propose, ça n'a pas été bon marché quand même. Jésus a remis la vie pour cela. Mais Dieu ne te charge pas de ça. Il te dit, viens. Viens et reçois sans rien payer des choses excellentes. C'est un chapitre très profond qui dénonce, vous en conviendrez, un type de vie où l'on passe à courir auprès du vent. Nous dépensons, mais à la fin, qu'est-ce qui reste? Dieu dit que nos efforts, notre temps, notre énergie, nos vies sont des dons précieux. Il le dit. Mais nous dépensons sans compter au point qu'on arrive même des fois à ne plus savoir compter jusqu'au 7. Le 7. Le 7e jour. Et des fois on va jusqu'à ne plus vivre ce jour pour le Seigneur, pour le sanctifier, et on va jusqu'à vivre ce jour pour nous-mêmes. On oublie ce que Dieu a dit dans son commandement, rappelle-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le verset 2 d'Ésaïe 55 n'est donc pas une question rhétorique. Pourquoi travailles-tu pour ceux qui ne rassasient pas? Et quand tu es là ce matin, peu importe ce que tu as fait auparavant, peu importe si tu as commencé même de façon incohérente avec l'invitation divine ce jour du sabbat, maintenant, ça ne compte pas. Ça ne compte plus. Maintenant, ce que tu te dis, viens, c'est viens. Maintenant, ce que tu te dis, c'est viens et je te donnerai du repos. C'est une invitation qui t'adresse maintenant à nouveau. Verset 3. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, celle de la fidélité envers David, qui est sûr. Je fais de lui un témoin pour le peuple, un chef qui commande au peuple. Tu appelleras une nation que tu ne connais pas et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te donne de la splendeur. Donc nous disions, il y a une invitation qui semble logique, viens vers moi et sans rien payer, puisque c'est lui qui a déjà payé, je te donnerai des bonnes choses. Peu importe ce que tu as fait jusqu'à il y a une heure, deux heures, trois heures, l'invitation c'est maintenant, c'est pour toi. Viens et je te donnerai du repos. Vous entendez l'appel, vous l'écoutez en tout cas. Mais il ne suffit pas d'écouter, il n'a jamais suffi que d'écouter. Dieu t'appelle. Dieu peut en ce moment même parler à ton cœur. En ce moment même, il pourrait être en train de te dire, écoute, arrête de vivre la vie que tu es en train de suivre. J'ai quelque chose de mieux pour toi. Tu pourrais même entendre celle-là. Tu pourrais même être convaincu que c'est Dieu qui t'appelle. Mais, si tu te contentes d'écouter, et tu ne fais pas un pas, ça te sert à quoi? Le verset 3 dit, tendez l'oreille et venez à moi. Il faut aller à lui. Comment aller à Dieu? On pourrait se poser la question. La réponse, je suis la donnée. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Je suis le chemin qui mène vers le Père, le seul chemin. Et donc, quand Dieu t'appelle à aller vers lui, il t'appelle à aller vers le Christ. Il t'appelle à aller vers lui au travers du Christ. Parce que c'est Jésus qui te le fera connaître. Et Jésus même l'a dit une fois, je leur ai fait connaître ton nom. Parce que te connaître, c'est connaître et avoir la vie éternelle. Une vie que Dieu t'a donnée. Tellement te l'a donnée, qu'il te le montre à la croix. Et il te propose même une alliance. Il dit une alliance perpétuelle, une alliance éternelle. Il y a un certain temps, nous avons parlé plusieurs fois de béatitude, de la conclusion des béatitudes. Vous vous rappelez, vous êtes le sel de la terre. Et nous avons appris que le sel de la terre, le sel c'était le signe de l'alliance perpétuelle. Et un des versets que nous avions repris pour comprendre celle-là, c'est un verset où il était écrit « J'ai promis par une alliance perpétuelle à David qu'il y aurait toujours quelqu'un sur son trône, quelqu'un de sa famille. » Et ici, Esaïe 55 rappelle cette promesse. Et Dieu dit « Le type de promesse que je fais avec David, alliance perpétuelle, alliance donc de sel, c'est la promesse que je veux faire avec toi. C'est une alliance que je veux établir avec toi par Jésus, au travers de Jésus. Je veux, et c'est la promesse faite en Esaïe 55, verset 3 et la suite, je veux vivre quelque chose avec toi pour que tu puisses témoigner de qui je suis. Pour que tu puisses témoigner de ce que je suis capable de faire dans ta vie, pour que je puisse te donner de ma gloire, ou autre traduction disait mon splendeur. Voilà ce qu'il promet. Et nous voici, aujourd'hui, nous voici devant cette table où il y a le symbole de ce que Dieu propose. Nous voici devant cette boisson. Nous voici devant du pain, symbole de sa mort, symbole de sa résurrection, symbole et enseignement de son intercession actuellement en notre faveur. Et le Seigneur te dit, viens. Donc, si tu sais que tu veux faire une alliance avec Dieu et que tu ne l'as pas encore faite, fais un premier pas et réponds à cet appel qui dit « Viens ».
Si tu entends dans ton cœur
que Dieu te dit « Non, viens, mais reviens », ne lui dis pas non. Ne fais plus taire la voix de l'Esprit qui t'appelle et qui te dit « Reviens à moi ». Verset 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Verset 12. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Ce sera pour le Seigneur un nom, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. C'est quoi qui sera un signe perpétuel? On devrait plutôt dire, c'est qui? C'est toi. Le Seigneur t'invite à devenir le signe perpétuel qu'il est vivant, qu'il est présent ici et maintenant. En tant qu'Église adventiste, avant de vivre la communion par le pain et le vin, on vit la communion les uns avec les autres, par le lavement des pieds au nom du Christ. Et ce matin, je vous invite, même si vous n'avez jamais fait l'expérience, mais que vous comprenez la portée de ce geste, je vous invite à vivre cela, à vivre la communion les uns avec les autres, une communion de pardon, une communion d'amour, une communion de service, en suivant l'exemple du Christ. Et ce matin, je vous invite donc, soit à descendre, soit à rester ici, soit à monter. Tout est prêt pour le lavement des pieds. Et dès que vous serez fini, s'il vous plaît, revenez, que nous avons un rendez-vous avec notre Seigneur, aussi par les symboles du pain et du vin. Soyez bénis. La question est, est-ce que nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce que vous savez, est-ce que nous avons la certitude que nous sommes vraiment, véritablement des enfants de Dieu? Oui? Vous êtes certain d'être des enfants de Dieu? Je l'espère. Je l'espère que vous êtes certain de cela. On reprend le verset, et la première chose qui frappe dans ce verset, c'est, on parle d'amour. Voyez quel amour, n'est-ce pas? Mais cet amour dont Jean parle, il est au service de quelque chose d'autre. Est-ce que vous pouvez le trouver? C'est assez évident, mais des fois on se concentre que sur l'amour, mais il y a des choses. L'amour, dans 1 Jean chapitre 3, est au service de quelque chose d'autre. L'amour que Dieu nous montre est au service de quelque chose d'autre. Ce n'est pas simplement Dieu nous aime. Il y a un objectif, il y a un chemin à suivre. Qui veut le dire? Donc on commence, il y a une certaine logique. Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé tellement qu'il t'appelle quoi? Son enfant. Et tu es vraiment son enfant. C'est quoi la suite du raisonnement? Mais pas simplement son enfant. Tu as passé par la conversion. Tu es devenu son enfant, mais encore, Dieu veut faire en toi quelque chose. Il veut faire en toi quelque chose de si grand, de si différent, de si énorme, qu'on n'a même pas idée. Ce que Dieu veut faire de toi, ce que Dieu veut faire en toi, d'ailleurs, on ne peut pas encore le savoir, on ne peut pas encore le voir, parce que ce qu'il va faire de toi, c'est lui ou celle qu'il va te faire devenir, tu ne pourras le découvrir que le jour où le Christ lui-même se manifeste. Le jour où nous pourrons le voir, quoi ? Face à face. Ce jour-là, nous serons comment ? Il dit l'apôtre Jean. Il dit comment ? Nous serons semblables à lui. Semblables à Christ. C'est-à-dire, l'amour que Dieu a pour nous se montre dans le fait qu'il dit « Carlos, personne n'a voulu connaître ton passé. » Ma femme, oui, mais bon, elle ne va pas le dire. « Personne n'a voulu connaître ton passé. » Mais je m'en fiche de ton passé. Je te fais devenir mon enfant, vraiment mon enfant. Et je te fais devenir mon enfant parce que j'ai vu que tu entames un chemin qui va te transformer, qui va te faire devenir quelqu'un que tu ne soupçonnes pas. Et encore, tu n'as rien vu. Parce que le jour où tu vas voir face à face le Christ, tu vas devenir semblable à lui. Semblable à Christ. Maintenant, ce qui est clair, ce qui est vraiment clair dans l'exposé que l'apôtre Jean commence, c'est une certitude actuelle. Nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Vous imaginez comment les enfants de Dieu? Vous les imaginiez comment? Parce que si vous n'avez pas une idée, regardez autour de vous. Ici, vous avez un bel échantillon des vrais et des véritables enfants de Dieu. Regardez, s'il vous plaît. À droite, à gauche, derrière, devant. Vous ne voulez pas? À côté de vous, vous êtes entouré des personnes que la Bible déclare enfants de Dieu. Si tu l'acceptes dans ton cœur, évidemment. Si tu acceptes qu'il soit ton père. Mais tu es l'enfant de Dieu. Tu es parfait. Parfait. Pas comme nous l'imaginons des fois, mais parfait selon la volonté de Dieu. Et perfectible. Les enfants de Dieu, c'est ce que nous sommes. C'est ce que le Seigneur nous fait devenir chaque jour. C'est ce que l'Esprit Saint produit en nous à fur et à mesure que nous vivons une vie de communion rapproché avec lui. C'est un chemin. Pour chaque jour, rassembler plus le Christ. Ce message que l'apôtre Jean parle et transmet, c'est le message, pour moi, le point culminant du message. Nous le verrons. Et nous serons semblables à lui. Vous vous rappelez de l'hymne qui dit « Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté, aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. » L'apôtre Jean parle de ça. Dieu nous aime. Dieu nous fait devenir ses enfants. En tout cas, il t'invite à devenir ses enfants. Il t'invite à accepter l'adoption que Dieu te propose. Fais de lui ton père. Dis-lui, je veux être ton fils. Ça passe par le baptême. Il n'y a pas mille chemins. Dieu t'aime. Dieu te fait devenir son enfant. Dieu te transforme. Dieu, le jour de sa manifestation en gloire, te permettra de devenir semblable à Christ. semblable à Jésus. C'est intéressant quand on va voir le texte, parce que quand Jean parle d'être semblable à lui, à Christ, il utilise les mots qu'on utilise en Genèse. Vous vous rappelez, dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 26, si vous voulez vérifier, vous pouvez le faire, à un moment donné, Dieu, qui est en plein processus de création, il est presque à la fin en fait, il va dire, faisons l'homme. Faisons l'homme. Comment ? À notre image et ressemblance. Et quand l'apôtre Jean dit, on le verra face à face, et nous serons semblables à lui, il utilise exactement le même terme. Ce qui donne un corps particulier à cette expression de foi. Moi, en tout cas, ça me permet de comprendre quelque chose. Quand je fais ce lien, Genèse 1, 26, 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3, je me rends compte, en tout cas, je comprends ceci. Je comprends que l'espérance, parce que ce matin, on parle d'espérance, je comprends que l'espérance dont Jean parle, ce n'est pas d'avoir l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, quoi que tu fasses, tu l'as. Dieu ne va jamais arrêter de t'aimer. Ça ne veut pas dire qu'il va cautionner tout ce que tu fais. Mais il ne va jamais arrêter de t'aimer. Et d'ailleurs, Jean ne dit pas, notre espérance, c'est que Dieu nous aime. Pas du tout. Il a déjà l'amour de Dieu. En ce qui concerne les gens et en ce qui concerne les croyants dans l'Église, il ne dit pas non plus notre espérance, c'est de devenir, d'être appelé enfant de Dieu. Parce que pour Jean, c'est une certitude. Dieu lui-même t'appelle son enfant. Pour Jean, l'espérance dont il parle, ce n'est pas non plus d'être vraiment, vraiment, vraiment l'enfant de Dieu. Fils de Dieu. Pour lui, c'est une certitude. Dieu m'a aimé. Dieu m'a appelé son enfant. Donc, je suis véritablement son enfant. C'est une certitude pour les croyants. Et cette certitude, l'espérance de laquelle Jean parle est une autre. L'espérance profonde qui anime le cœur des gens, de l'apôtre Jean, et aussi qui l'inspire quand il écrit, est celle de voir finaliser en lui-même la transformation que Dieu, par son Fils et par le Saint-Esprit, était déjà en train de réaliser. J'étais fait devenir son enfant. Il m'a déclaré son enfant. Mais encore, vous n'avez rien vu. Non plus d'ailleurs, mais ce que nous serons, ce que nous deviendrons, attendez voir le jour où le Christ va revenir. Ce jour-là, nous le verrons face à face. Ce jour-là, vous verrez ce qu'il a commencé. Il va le finir. Et en cela, l'espérance qu'il exprime, elle va de pair avec ce que l'apôtre Paul a dit en Philippiens 1:6, vous vous rappelez, c'est lui qui a commencé en vous sa bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme. Et là, il rejoint la même chose que Jean, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Jean espère. Jean ne voit pas le jour. Il a hâte que le Christ revienne. Il a hâte que le Christ revienne pour que le Christ puisse réaliser en lui, Jean, finalement celui qu'il peut devenir avec lui. Jean a hâte de devenir finalement semblable à son Sauveur. Il veut. Il a entamé un chemin de transformation après sa conversion. Mais il dit, il ne faut pas que ça s'arrête. il faut que ça continue, il faut que je me rapproche du Christ, et ce jour-là, quand je le verrai, ça sera le comble. Ça sera l'apothéose, l'espérance. L'espérance des gens, c'est que Dieu continue à travailler en lui, en attendant ce jour glorieux, et que ça le rapproche de plus en plus de celui que le Christ lui-même il est. Or, l'apôtre Jean dit encore plus. Nous sommes un peuple mené par l'espérance. Pas seulement en tant que croyant et chrétien, mais surtout en tant qu'adventiste. Notre message, c'est le retour du Christ. Notre espérance, c'est son retour au plus vite. Étant un mouvement prophétique, nous croyons que nous sommes à la fin des temps. Étant un mouvement qui s'attache aux prophéties telles que Daniel et l'Apocalypse les révèlent et d'autres livres, nous croyons que nous vivons à la fin des temps. Et que les choses se préparent pour que le Seigneur revienne. C'est qu'il y a une bonne nouvelle. Notre espérance doit rester vivante. Notre espérance doit s'actualiser chaque jour. Parce que chaque jour, je peux être dans la présence de celui qui me transforme, qui me ramène un tout petit peu en plus chaque jour vers l'idéal qui est le Christ. Et cela, et cette espérance change ma vie. Cette espérance façonne ma vie. Cette espérance façonne mon éthique. Cette espérance façonne le comment j'entre en relation avec les autres. L'apôtre Jean le dit d'ailleurs, verset 3. Il est écrit, toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie, comme lui aussi, il est pur. Si tu as l'espérance du retour du Christ, si tu as l'espérance de le voir face à face et de vivre cette transformation qu'il veut produire en toi, alors ta vie maintenant doit être aussi en accord avec la vie du Christ lui-même. Ta vie doit être en accord avec ce que la Bible, la parole du Seigneur enseigne. Si tu es quelqu'un qui a l'espérance, tu ne peux pas arrêter de proclamer le retour du Christ et d'espérer en ce jour comme le plus beau jour de toute notre existence. Et contraire peut-être tous ces courants qui parlent du jour du jugement comme un jour catastrophique. La Bible a notre message. Le jour du Seigneur, c'est un jour merveilleux. Ce n'est pas le jour de la fin, c'est le jour du commencement. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque le Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie, comme lui-même, il est pur. La purification dans la Bible est toujours liée au temps de préparation. La purification dans la Bible précède toujours la rencontre avec Dieu, qui implique cette purification, une préparation physique, une préparation morale, une préparation spirituelle, une préparation pleine où rien n'est laissé au hasard. une préparation personnelle, mais toujours une préparation communautaire. Nous sommes tant aimés que nous avons été déclarés les enfants de Dieu. Ces véritables enfants, ces véritables fils, ces véritables filles. Il a commencé en nous une œuvre de transformation qu'il va finir le jour où le Christ apparaîtra dans la gloire, où nous le verrons face à face. Voilà notre défi. Voilà notre défi, pas seulement pour ce début d'année ecclésiastique ou scolaire, mais pour notre vie. Voilà aussi la puissance qui nous anime, l'amour de Dieu et l'espérance. Nous devons être prêts pour les jours du retour du Christ. Notre espérance n'est pas vaine. Notre espérance est réelle. Notre espérance est vivante. Elle s'appelle Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen.